21h passées de quelques secondes sur Radion. Très bonne soirée à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous allons partager cette heure aujourd'hui avec une musicienne, une femme de radio, une femme de télévision et également un écrivain. Ève Ruggieri, bonsoir Ève.
Bonsoir.
Je suis, vous savez, très heureux de me trouver en face de vous, ici, chez vous, à Paris. Merci de nous accueillir.
Mais c'est avec plaisir.
Alors, Ève Ruggieri, vous signez depuis l'automne dernier un dictionnaire amoureux de Mozart, disponible en librairie aux éditions Plomb. Est-ce que je dois rappeler qui vous êtes, Ève Ruggieri? Alors, en fait, vous êtes pianiste à l'origine, car vos parents étaient des musiciens.
Mes parents étaient musiciens, classiques, bien sûr. Maman était violoniste, mon père était contrebassiste et chef d'orchestre. Il avait une petite formation de musique de chambre. Mon frère jouait du violon et moi du piano. Voilà.
Et vous êtes toujours productrice d'émissions, enfin télévision un peu moins maintenant.
Non, la télévision j'ai arrêté.
C'était musique au
cœur. C'est ma fille qui a pris qui a pris la suite. Et c'était musique au cœur, mais ça a duré 28 ans. Je dois dire qu'à la fin, j'en pouvais plus. Et donc, comme j'avais en même temps la radio, plus un certain nombre de festivals que je dirige, et quelques voyages et conférences culturelles à droite, à gauche, donc j'étais un peu débordée, et j'ai fait savoir que je souhaitais arrêter, et tout s'est très bien passé. Voilà.
Rappelons que vous êtes également productrice donc, des festivals d'Antibes, de Chartres, de Lacoste et de Saint-Malo, et qu'on peut vous entendre du lundi au vendredi sur Radio Classique, à partir de 9h30, oui, nous sommes très écuméniques sur Radion, Ève. Parlons de Mozart. D'abord, se lancer dans l'écriture d'un dictionnaire amoureux de Mozart, alors qu'il existe déjà une littérature, des biographies sur ce génial musicien. Ève, c'était prendre un risque?
Oui, bien sûr. C'était prendre un risque, surtout aux yeux des spécialistes qui... Comme j'étais une femme de télévision aussi, on a toujours considéré que j'étais quand même un peu une pièce rapportée dans cet univers finalement qui est assez fermé. Et en plus, j'étais une femme. Je crois que beaucoup de spécialistes de la musique ont pendant un temps pensé qu'ils seraient mieux à ma place à la télévision ou à la radio. Bien que si ça va un peu chercher, ils se sont aperçus que j'étais quand même... J'avais été une bonne pianiste, que j'avais eu un premier prix de piano, que j'avais grandi dans une famille d'excellents musiciens, qu'on recevait à la maison tous les plus grands solistes. Ça allait de Lili Laskin à Samson François quand il passait donner des concerts à Nice. Donc on avait toujours à la maison des écrivains, des philosophes, des grands musiciens. J'ai vécu là-dedans complètement immergée. Et puis, j'avais fait autre chose. J'avais choisi de faire de la radio, d'écrire des contes fantastiques pour les enfants au début. Et puis ensuite, de faire une émission où je racontais l'histoire. Un critique avait dit, je crois, dans l'Express ou quelque chose comme ça, que j'avais relancé le style des biographies. Et c'est vrai, parce que tout ça, ça remonte à 40 ans. Et à l'époque, on ne faisait pas beaucoup de biographies historiques. Et brusquement, tout le monde s'y est mis. Au début, comme les critiques musicaux, les historiens se demandaient qui était cette personne qui parlait d'histoire alors qu'elle n'était pas historienne. Puis quand ils ont vu que ça faisait vendre énormément leurs livres, ils m'envoyaient tous le premier jet de leurs livres pour que je l'inscrive dans mes émissions. Et on a aujourd'hui d'excellentes relations. Mais voilà, il faut s'imposer quand on arrive comme ça, de province, dans un milieu qui est déjà constitué. Et ça a été finalement relativement facile. Au début, j'étais un peu intimidée. Et donc, quand on m'a proposé de faire un dictionnaire amoureux de Mozart, je connaissais tous les ouvrages d'Hernoncourt, des Massins, de Brigitte et de Jean, qui étaient d'ailleurs des amis. Et je me suis dit... il faut que je le fasse à ma manière, c'est-à-dire que je précise dès le début que ce n'est pas un musicologue. Je ne suis pas une musicologue, je suis, comme je vous le disais, une bonne musicienne. Je peux accompagner les chanteurs, j'ai joué en direct ma Merlois avec Michael Roudy à la télévision, etc. Et puis un jour, j'ai décidé que je ne pouvais pas tout faire et j'ai arrêté de travailler le piano. Mais je me suis dit qu'en tout cas, ce dictionnaire serait vraiment un dictionnaire amoureux. C'est-à-dire que je choisirai ce que je préfère, des œuvres de Mozart. Mozart est de toute évidence un génie, mais il y a des œuvres qui me touchent plus que d'autres, et que je les disséquerai pas en musicologue, mais je les écouterai en écrivant à leur propos, et que je raconterai les émotions que ces œuvres me suscitent en moi. Et en même temps, j'ai évidemment tenu à ce que il y a probablement quelques erreurs, mais je pense pas trop. Et j'ai tenu en tout cas à tout ce qui était les tonalités, les numéros de Köchel, les dates de composition, l'identité des personnes rencontrées tout au long de sa vie, musiciens ou mécènes, pour être à ses côtés. Tout ce qui touche à l'histoire de l'empereur Philippe II, de Joseph II,
Joseph II,
pardon,
oui.
et après de Léopold. Mais j'ai essayé vraiment en plus peut-être démontrer que ce qui avait été écrit dans certains livres très sérieux n'était pas tout à fait la vérité, voire même carrément faux, et qu'un certain nombre de personnes étaient calomniées, même par les meilleurs. Brigitte Massin, de toute évidence, détestait Constance. Elle en dit pique-pendre, entre autres que ce qui la séparait de Mozart, c'était la musique qu'elle ne connaissait pas, ce qui est une énorme bêtise, parce que non seulement Constance a créé une des messes de Mozart, de son vivant, enfin du vivant de Mozart,
Et
mais
c'était,
quand il
elle
est
fut une bonne
mort,
musicienne
bien
aussi.
sûr, c'est une excellente chanteuse, et quand il est mort, elle a organisé, pour survivre avec ses deux enfants, des tournées où elle chantait les opéras de Mozart. Enfin, c'était quelqu'un qui méritait bien mieux que ce mépris, la reléguant à la cuisine. De même que j'étais très étonnée de voir que personne ne s'était jamais intéressé au sort de Nannerl.
Donc Nannerl, c'est la
C'est la
sœur de
sœur de
Mozart.
Mozart. Et personne n'en parle jamais. Et tout le monde fait comme Léopold, c'est-à-dire qu'on l'oublie dans un coin de la cuisine à Salzbourg, dans la maison familiale, à partir du moment où tout est consacré finalement à la gloire de son fils.
Enfin, il faut reconnaître que Mozart a éclipsé
Oui, mais
sa jeune
alors, je
soeur,
sais pas,
sa grande sœur, pardon.
on aurait pu s'intéresser un peu à elle, puisqu'on a des lettres, par exemple, de la cour de France ou d'Autriche, où lorsqu'ils se produisent d'abord enfants, puis après un petit peu plus âgés, à Versailles, tout le monde remarque qu'elle est bien meilleure claveciniste que son frère. Et on s'en fiche. Elle disparaît. Il n'y a que Mozart, finalement. Il n'y a que Wolfgang qui continue de lui écrire pendant les voyages italiens. Et encore, il ne se rend même pas compte de sa cruauté, ni Léopold, parce qu'il lui décrivent les merveilles qu'il voit et auxquelles elle n'est pas conviée. Elle a été abandonnée.
Alors on va revenir un peu sur la famille
Oui.
de Mozart. Bon, je rappelle
Donc, j'ai
simplement.
essayé de faire ça. J'ai essayé d'être au plus près de la vérité historique, bien évidemment, de tout ce qui touchait plus directement au catalogue des œuvres de Mozart, aux dates de composition, à ses rencontres. Et puis, mais aussi de soulever quelques voiles pudiquement posées sur des gens qui, de toute évidence, n'intéressaient personne,
Et remettre parfois
sauf
les
moi.
points sur les i.
Voilà, exactement.
Alors, on rappelle qu'il est né en 1756, il meurt
6.
extrêmement jeune,
Oui,
35 ans, en
91.
1791.
Décembre 91.
Alors, il y a la maman, donc Anna Maria, le père Léopold. On a parlé donc de la sœur, Annerl. Tout à l'heure, vous avez parlé de Constance. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, c'est celle qui va devenir la femme
Son épouse.
de Mozart. Léopold, le père, j'aimerais qu'on revienne sur le rôle du père, Ève Ruggieri, parce que Léopold, est-ce qu'il faut voir en lui un tyran, un négrier, un exploiteur de petits garçons qui, d'ailleurs, à l'âge de 4 ans, écrivait en une demi-heure tout un Allegro, qui est doté d'une intelligence, d'une mémoire prodigieuse et peut-être aussi de l'oreille absolue?
Oui, encore que l'oreille absolue, pratiquement tous les grands musiciens auxquels j'en ai parlé, que ce soit Stern, que ce soit Horowitz surtout, que ça a beaucoup fait rire et qui m'a dit ça n'a aucune importance. Tout ça, c'est des repères de. Comment il avait trouvé un. C'était pas de maniaque, mais c'était quelque chose comme ça. Il dit bon, très bien. On est peut-être. On vient peut-être au monde avec l'oreille absolue, mais en tout cas, les musiciens ne s'en soucient pas.
Alors Léopold,
Ben Léopold,
un
c'est le
tyran,
contraire,
un
c'est
exploiteur?
exactement le contraire de ce que l'on a laissé longtemps flotter comme ça dans la tête de ceux qui s'intéressaient à lui. Pourquoi? Ben, probablement parce que c'était un peu la mode d'avoir comme ça des petits prodiges, ça continue de l'être, hein. Vous savez, je crois que c'est Hoistra qui avait répondu un jour à une journaliste qui lui disait « Oh maître, vous avez dû en rencontrer des jeunes prodiges comme vous. » Il a répondu avec son accent russe « Jeunes prodiges, pas beaucoup. Parents, jeunes prodiges, énormément. » Donc, je pense que c'était un père autoritaire, c'est vrai. On a dit « Voilà, il a martyrisé son fils. » il l'a fait parce que ça lui permettait de gagner beaucoup d'argent lui-même, etc. C'est totalement faux, de A jusqu'à Z. Léopold a été, je dis toujours parce que c'est la mode aujourd'hui, le premier des papas poules de l'histoire. On est à des années-lumière du père, par exemple, de Beethoven, qui était un homme brutal, alcoolique, qui effectivement tirait par les oreilles son fils vers l'orgue ou vers le piano. Léopold, c'est le contraire. Déjà, il avait fait la même chose pour sa fille. C'est pour ça que je dis que son abandon est cruel. Parce qu'elle avait 4 ans et demi de plus que son frère. Et donc, quand elle naît, il va, à 3 ans, commencer à lui poser ses petites menottes sur les touches du clavecin. Et puis, il va tout lui enseigner. Et puis, malheureusement, 4 ans et demi après, un fils va apparaître. Le fils, c'est aussi le porteur du nom. Même si c'est dans l'inconscient des gens, il y a ça, il y a l'héritier. Et c'est non seulement chez cet homme, qui est beaucoup plus connu que ne sera son fils dans ses débuts de carrière, parce qu'il a fait paraître cette méthode pour le violon, qui d'ailleurs a été rééditée parce qu'elle a obtenu un succès qui a fait toute l'Europe pratiquement. Tout le monde a parlé de la méthode de violon de Léopold Mozart. Et donc, il va s'émerveiller lorsque, comme vous le dites, très tôt, à cet intérêt, cette fascination qui dirigeait Wolfgang vers la musique, va arriver la composition. Et ça, brusquement, ce jour-là, il comprend que Dieu a fait naître un génie, selon sa phrase, chez eux, à Salzbourg. Et là, il n'y en a plus que pour son fils.
Alors, Eve Ruggieri, on va continuer à tisser la toile autour de votre dictionnaire amoureux de Mozart. On propose une première pause musicale sur Radion. Ce ne sera pas du Mozart qu'on va écouter.
Ça me changera après 3 ans et demi.
Et on se retrouve, bien sûr, dans une poignée de minutes.
Certains l'aiment tout, certains l'aiment tard. Certains l'aiment chou, d'autres tartare. Le plaisir n'a pas de mesure. Tous les goûts sont dans ma nature. Tous les goûts sont dans la nature. Certains recto, d'autres pétards. Certains verso, d'autres s'agitent. Le plaisir n'a pas de censure. Toutes les tendances sont dans ma nature. Tous les goûts sont dans la nature. Certains l'aiment pour avec Icar. Certains plumeaux, d'autres océdards. Faut pas faire de littérature. Tout est écrit dans ma nature. Tous les goûts sont dans la nature. Certains autos, certains motards. Certains métros, d'autres moutards. Le plaisir n'a pas de figure. Toutes les formes sont dans ma nature. Tous les goûts sont dans la nature. Certains l'aiment fou, d'autres sans phare. Certains bravos, d'autres bavards. Le plaisir n'est pas la luxure. Tous les goûts sont dans ma nature. Tous les goûts sont dans la nature. Certains l'aiment tout, certains l'aiment tard. Certains l'aiment chou, d'autres tartare. plaisir n'a pas de mesure. Tous les goûts sont dans ma nature. Tous les goûts sont dans ma nature. Le plaisir n'a pas de mesure. Tous les goûts sont dans ma nature.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Ève Ruggieri, le dictionnaire amoureux de Mozart. Justement, avant la pause musicale, je disais que nous allions continuer à tisser ensemble la toile. Alors, cette histoire d'araignée, cette petite araignée magique qui descend...
Alors ça, je ne sais pas si c'est vrai. J'ai quand même, parce que je suis consciencieuse, cherché, j'ai même posé la question au Mozarteum de Salzbourg. Et tout le monde est resté assez évasif. On ne sait pas trop. C'est peut-être une petite histoire, une petite légende, c'est peut-être vrai, qui dit que lorsque Mozart commençait à travailler à 4 ans son petit violon, on voyait descendre au bout de son fil une araignée qui ne bougeait pas tant qu'il jouait, puis qui remontait dans sa toile. Et qu'hélas, un beau jour, Madame Mozart, qui était une bonne ménagère, l'a écrasé d'un coup de balai et Mozart a pleuré toute la journée.
Alors, dans la famille Mozart, on aime les animaux. Vous racontez vous-même que... toute petite fille, pour vous motiver à gagner, à remporter un concours de piano, on vous avait promis un chien.
Oui.
Or, il n'en fut rien.
Non, on m'a trahi.
Quelle honte.
Mes parents m'ont trahi. Oui, parce que moi, je rêvais d'avoir un chien. J'avais été élevée à la campagne. À la campagne, on avait... Enfin, la campagne, dans les bas quartiers, on va dire, à la sortie de Limoges, qui étaient d'ailleurs des quartiers absolument jolis. On disait bas parce que c'était à peu près à la hauteur de la Vienne. Et c'était des quartiers assez charmants parce que c'était des maisons individuelles avec de jolis jardins un peu à l'anglaise comme ça. Et c'est ma grand-mère qui m'avait élevée puisque mes parents étaient réfugiés à Toulouse avec l'orchestre qui avait été amené en zone libre à Toulouse. Et donc, j'ai découvert que j'avais un frère lors d'un Noël que je ne savais pas puisqu'il était tout petit et maman ne pouvait pas s'en séparer. Elle le nourrissait. Et donc, c'est ma grand-mère qui m'a élevée. Et c'était une femme qui adorait sa fille, unique, merveilleuse violoniste, Marie-Paul, ma maman, et qui aimait beaucoup la musique aussi, évidemment, puisque ça représentait aussi la fille absente, et qui, la première... on avait commencé par l'abécédaire de Mozart, vous savez, qui a été mis en musique. Le A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, L, 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 M, N, O, P, etc., etc., etc. Et je ne sais pas pourquoi je m'étais lancée là-dedans. Je vous racontais ça.
Parce que vous parliez de votre éducation à la campagne, par votre grand-mère,
on
parlait des chiens initialement.
Oui, et là, il y avait des chats. Et pas de chiens, mais il y avait des chats. Et j'adorais les animaux. Et les voisins de la maison qui étaient un petit peu plus loin, où il y avait une dame qui m'apprenait. J'avais une maîtresse. Je n'allais pas à l'école. Je suis rentrée à l'école assez tard. Et j'avais un professeur qui s'appelait Mademoiselle Rouel, qui appartenait à la famille d'un général assez autoritaire, qui avait une très jolie maison avec une grande terrasse pleine de fleurs. Et c'est là que j'apprenais... à écrire, mais surtout à découvrir les chiens. Elle avait un chien. Et alors, j'avais finalement trouvé que les chiens, c'était mieux que les chats. Et j'étais tombée amoureuse d'un chien. Et quand j'ai eu, ce premier concours, c'était un tout petit concours. C'était une dame qui s'appelait Madame Zurflu. Ça ne dit rien à personne aujourd'hui, mais qui allait de ville en ville. C'est une sorte de petit concours destiné à trouver des jeunes musiciens. Et donc, maman m'avait dit, si tu gagnes le concours, tu auras un chien. Voilà. Et puis, je n'ai pas eu de chien parce que c'était trop compliqué à la maison. Ils avaient raison. Entre-temps, j'avais été reprise par mes parents qui étaient revenus à Limoges et donc qui étaient à l'orchestre de Limoges. Et à l'époque, il y avait des orchestres dans toutes les villes de province. Hein. Et donc, ben, j'ai pas eu mon chien parce que c'était compliqué pour le garder. Il partait en tournée, donc il gardait le chien, bref. Donc, la première fois que j'ai gagné de l'argent en tant qu'assistante à la radio, à ce qui est aujourd'hui Radio France, je me suis précipitée dans un chenil dont je me rappelle très bien où il était. C'était tout à fait au bout de l'avenue d'Italie, dans le 13e arrondissement. Et j'étais venue pour acheter un tout petit chien parce que j'avais une petite chambre de bonne au 7e étage sans ascenseur. Donc, je voulais un petit chien que je puisse porter. Et là, je suis tombée sur une cage beaucoup trop petite pour un dalmatien qui avait le dos complètement râpé. On voyait la peau par les barreaux et je suis repartie avec un dalmatien.
Effectivement.
C'était pas une bonne idée. Mais il était tellement mignon.
Alors, effectivement, on parlait des animaux parce qu'il y a Pimperle, donc le fox terrier de la famille Mozart.
Mais les Mozart, en général, toute la famille, y compris la petite bonne, sont fous des animaux. Brigitte Bardot les aurait adorés aujourd'hui parce qu'il y a les petits oiseaux qu'achète Mozart, dont il note soigneusement dans ses cahiers le prix. Et puis, il y a ce fox terrier, Miss Pimperle, qui est l'objet, alors vraiment, de l'amour absolu de Léopold, de Madame Mozart, de Nannerl. Nannerl un peu moins, d'ailleurs. Mozart aussi, il prend ça avec un petit peu de recul. Mais on écrit des poèmes pour son anniversaire, on lui apporte toutes les douceurs à déguster. Elle a dû mourir jeune, cette chienne.
Et elle aime le tabac espagnol.
Et elle prise du tabac, enfin elle prise, elle lèche du tabac espagnol. Et alors la bonne qui est absolument très fine, la petite servante, dès que Léopold est parti, elle lui envoie des lettres en disant « Pimperle ne mange plus, elle ne dort plus, à des cauchemars la nuit depuis qu'elle est loin de vous. » Donc on imagine le désespoir de Léopold. Enfin, tout ça est très amusant.
Alors, il y a quelque chose de très amusant dans cette famille Mozart, c'est qu'on est très pipi-caca.
Ah ben ça, c'est la scatologie. Et ce qui m'a beaucoup amusée, c'est que tous ces doctes personnages qui écrivaient sur Mozart pendant des années pour raconter sa vie, parlaient tous à l'unanimité du divin Mozart. Jusqu'au jour où on a autorisé l'apparition des lettres de Mozart. Et là, le divin Mozart s'est transformé en un être qui parlait que de pipi, de caca, de positions compliquées pour faire l'amour. Et d'un seul coup, on s'est aperçu que s'il y avait de toute évidence, et ce n'était pas négociable, un génie d'un côté, il y avait aussi un gamin insupportable qui parlait comme tout le monde à son époque et qui parlait comme une des cousines du roi Louis XIV qui écrivait à une de ses amies exactement avec les mêmes termes. Alors je me suis dit, mais pourquoi ? Et je me suis dit, c'est parce qu'il n'y avait que deux manières de soigner les gens. On n'était pas comme aujourd'hui avec des appareils sophistiqués pour voir ce qui ne va pas bien dans le moteur, si j'ose dire. Là, c'était les saignées qui, en général, envoyaient les gens dans l'autre monde assez rapidement. Molière s'en est beaucoup moqué. Et puis, il y avait les lavements. Et comment allez-vous, Lillier, c'est comment allez-vous à la selle ? Ça s'est transformé en comment allez-vous tout court, mais c'est ça que ça voulait dire à l'origine. Et on ne parlait que de ça. Et donc, il y a des lettres de Mozart. On m'a demandé un jour, vous pourriez peut-être en lire une. J'ai dit jamais.
Et il y a Léopold, même le père, hein, d'ailleurs. À cette expression, il parle de ses petits soucis à vous faire chier les oranges.
Oui, oui. Ça mérite d'être placé. Il est très drôle. Un jour, il a un accident et il dit... ça m'a coincé les noisettes. On voit bien ce que ça peut être.
Ou quand il écrit à Mozart qu'il ne veut pas prendre la diligence parce qu'il a peur pour sa paire de couettes.
De couettes,
c'est très
clair.
Hein
oui.
Alors, c'est vrai que vous expliquez aussi, puisqu'il y a une entrée Freud, que Freud dit qu'il y a un intérêt pour le bruit des intestins, notamment chez les musiciens.
Alors ça,
c'est intéressant.
C'est Freud. Hein. Vraiment, à un moment, il dit des énormes bêtises et se fait renvoyer dans les cordes par l'un de ses amis. Non, ça n'a rien à voir. Enfin, je crois que les musiciens sont comme tout le monde. Ils essaient de dissimuler ce qui n'est pas très esthétique quand ils sont en public. Puis le reste du temps, ils vivent comme un corps doit vivre.
Le dictionnaire amoureux de Mozart, c'est donc le dernier ouvrage signé de Ève Ruggeri qui est ce soir devant le micro de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion. Ève, une nouvelle petite étape musicale et on se retrouve juste après.
C'est la mort.
capitainement dans ce long voyage. La terre est loin devant, je crois qu'elle m'entend. Dernier verre, je m'accroche au trottoir dans une rue où l'alcool a noyé l'espoir. Un marin sans mémoire raconte son Il y a des jours, il y a des souvenirs, il y a des nuits, il vaut mieux en rire, il y a des images, tu vois mourir les sirènes, passer des années-lumière, mourir les sirènes, ne cache pas ta peine quand tu cache pas la peine. Le soir descend, revois des nuages. La mer est dans mon corps, ma loue encore. La terre est bien trop loin, je fais tout ça pour rien. Toujours ce verre et cette fille des trottoirs s'accroche à mon bras.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Eve Ruggieri, on a parlé de la scatologie dans le langage et dans les lettres de Mozart et de la famille Mozart et dans les mœurs de l'époque avec cet érotisme de Mozart, il y a une entrée allumée. Mozart est un personnage qui peut avoir des réactions physiques surprenantes.
Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. J'ai fait mettre dans ce livre une lettre d'une jeune aristocrate qu'il avait invitée dans son salon pour donner un concert. Elle raconte qu'en plein milieu du concert, il s'est mis à sauter par-dessus les meubles, les guéridons,
en miaulant, je crois.
Il était au piano, il était tout seul, c'était un récital. Il s'arrête en plein milieu et il se met à sauter par-dessus les meubles en miaulant, et puis il revient et il reprend son morceau comme si de rien n'était.
Est-ce qu'il y a un grain de folie chez lui? Est-ce que la folie va avec le génie?
Je crois que... Je ne sais pas si la folie va avec le génie. Dans le cas de Van Gogh, oui. Mais enfin, tout ce n'était pas à ce degré-là. Non, je crois que dans le cas de Mozart, c'est bien plus mystérieux que cela. J'ai consulté un certain nombre de psychiatres et un psychanalyste en leur disant, voilà, je vais vous expliquer certaines attitudes de Mozart. Par exemple, donc, j'ai raconté cette histoire du concert où il s'arrête pour sauter sur les meubles en miaulant. Je raconte comment il va écrire... à sa sœur, les lettres de Mozart, soit il les écrit, ce qu'on appellerait le verlan aujourd'hui, il écrit à l'envers, il met les mots à l'envers.
Trasome, il signe Trasome.
Voilà. Mais il y a ces répétitions inexpliquées. Dans une lettre qu'il envoie à sa sœur, qu'il expédie à sa sœur, il y a je ne sais pas combien de fois, 30 fois peut-être, le mot pourquoi. Pourquoi je vous écris, mais pourquoi je ne vous écrirai pas? Et pourquoi me répondriez-vous? Pourquoi ne me répondriez-vous pas? Pourquoi? Et comme ça, page après page. Et en même temps, il y a cette faculté. Quand il commence d'apprendre les mathématiques, il est tout jeune, hein, il vient d'apprendre à lire, et son père, Léopold, décide de le mettre au calcul. On dit calcul. Et brusquement, son obsession n'est plus la musique, mais ça. Il se met à couvrir, ce qui n'est quand même pas normal chez un enfant de 5 ans, il se met à couvrir les parquets, les murs, les meubles qui tombent sous sa main, tout l'appartement de chiffres. C'est quand même très étonnant. De même que c'est très étonnant de le voir répondre à son père qui lui dit « Vous n'avez même pas commencé cette partition, vous êtes très en retard. » Il lui répond « Mais vous inquiétez pas, mon cher père. D'abord, j'essaie de finir mon opéra. Mais dès que j'aurai fini mon opéra, je jette sur le papier la partition attendue. Elle est toute prête. Elle est dans ma tête. Tout est prêt. J'ai juste à la recopier. » Donc pendant qu'il écrit un opéra, il compose en même temps dans sa tête une partition qu'il va mettre comme ça. Quand on a consulté les partitions de Mozart, il n'y a pas une rature.
Il faut dire aussi que c'est un enfant, l'enfance de Mozart est une enfance très solitaire parce que les parents sont absents.
Oui, mais enfin, je pourrais vous citer 2000 enfants qui n'ont pas été élevés par leurs parents. Tous les enfants d'artistes les voient passer comme des coups de vent. Ma fille m'a vu... bien moins souvent que qu'elle aurait dû me voir. Bon, c'est pas Mozart. Et non, je crois, ce que m'a répondu presque tous ces hommes de science que j'ai consultés, que Mozart, on découvrira peut-être un jour, la science n'est pas encore assez avancée dans ce domaine, que c'était une des formes légères de l'autisme. Purement et simplement, et qui faisait partie de ses enfants. Vous savez, les autistes ont des capacités extraordinaires dans des domaines où on ne les attend pas. Et on a beaucoup parlé d'un petit berger au début du XXe siècle qui était dans les montagnes de je ne sais plus quelle partie de la France et qui résolvait des équations ou qui trouvait des racines plus vite qu'aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, les ordinateurs le battraient. Ils ont bien battu le champion d'échecs. Mais à l'époque, aucun mathématicien ne calculait aussi vite que cet enfant.
Qui n'était ni lire, jamais ni écrire. Allé à l'école en plus.
Il ne savait ni lire ni écrire. Oui. Il gardait les moutons. Il savait à peine parler.
On a dit que Mozart, et c'est vous, Eve Ruggieri, qui le dites dans votre dictionnaire amoureux de Mozart, Mozart a voyagé pendant 3720 jours, ce qui représente
un tiers de sa vie,
une dizaine d'années, puisqu'il est mort à 35 ans, une dizaine d'années à voyager l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne et la France.
L'Angleterre aussi.
Eve Ruggieri, les Pays-Bas. Le lien de Mozart avec la France. Alors, la famille Mozart est venue en
d'abord
France.
D'abord, une première fois, oui.
Et Mozart, petit, a été présenté à la reine Marie-Antoinette.
Bien sûr. Mais je dirais même que ce n'était pas sa première rencontre avec Marie-Antoinette.
Alors, autrichienne, un point commun avec Mozart.
Il l'avait rencontré en Autriche. Oui. Il l'avait rencontré dans le palais. Et c'est là cette histoire qui, moi, me fascine, parce qu'il y a des rencontres qui sont prémonitoires, sans qu'on le sache, où il court dans les salons de l'Hofburg, il glisse sur les parquets cirés, il tombe et il se met à pleurer, comme tous les enfants qui ont 6 ans, ou 7 ans et qui se font mal. Et une petite fille ravissante arrive, le prend dans ses bras, le console, l'embrasse et lui dit « Quand je serai grand, je vous épouserai ». Et la petite fille, c'est Marie-Antoinette. Et quand on regarde, donc tout le monde a dû se dire « Mais ces enfants, quel destin magique les attendent, cet enfant prodige, cette future reine probablement ». Et ils mourront tous les deux, lui abandonné par tout le monde et elle décapitée en place publique en France.
Ève Ruggieri, dans votre dictionnaire amoureux de Mozart, il y a une entrée amusante, c'est coup de pied au cul.
Oui.
J'aimerais que vous expliquiez cette histoire du coup de pied au cul.
Oui, parce qu'on a crié évidemment « Haro ». Sur celui qui était l'auteur de ce coup de pied au cul qu'il a fait passer à la postérité, ce qui n'est pas très, très noble. Et pourtant, c'était un personnage assez sympathique, qui n'était pas un vieux monsieur, mais il devait avoir une trentaine d'années, 35 ans.
Et ami du père de Mozart.
Très ami de la famille. Et qui, à mon sens, a dû être exaspéré. Lui, il était au service du prince archevêque Colloredo, comme Mozart. Et il s'apercevait bien, connaissant bien la famille, que Mozart était insupportable. Mozart détestait porter la livrée de ses maîtres, entre autres de Colloredo. Il détestait de composer des messes de commande ou des partitions de passage au dernier moment quand un personnage important traversait Salzbourg. Et donc, il demandait tout le temps des augmentations. Et quand ce n'était pas des augmentations, c'était des autorisations de partir pour aller chercher un emploi ailleurs. Colloredo ne pouvait pas ne pas savoir ça. Il donnait des autorisations pour qu'il aille travailler ailleurs. Donc, ça devait être un peu exaspérant. Il faut dire qu'avant Colloredo, il y avait eu un autre archevêque qui était un ami des Mozart et qui était le parrain de Wolfgang et qui avait dû lui donner de mauvaises habitudes parce qu'on voit qu'avec cet autre archevêque, ils étaient partis 2 mois et demi tout de même en Italie. Et c'est lors du dernier voyage que Skratenbach, qui était ce prince archevêque parrain de Mozart, s'en va ou disparaît. Et c'est Colloredo qui arrive. Et Colloredo, il n'est pas du tout. D'abord, il descend d'Habsbourg. L'autre est archevêque. Lui, il est prince archevêque. C'est un homme, là aussi, qu'on a calomnié beaucoup, qui est loin d'être sot. Il connaît les encyclopédistes. Il a suivi un petit peu tous ces mouvements.
L'esprit des Lumières. Grand musicien,
les maçons, violoniste. Excellent violoniste. Il a le buste de Voltaire sur sa table. Donc, ils auraient pu s'entendre. Mais à la limite, peut-être que si c'était entendu, Mozart aurait fait comme Haydn, il ne serait jamais sorti de sa prison. Et là, il va être insupportable. Et un beau jour, Arco, qui avait dû lui dire 250 fois « Fais attention », etc., n'en pouvant plus, lui donne un coup de pied derrière. Et là, Mozart, qui est vraiment... C'est un être qui a deux aspects. On voit que dès que quelque chose l'ennuie, il le met de côté. Et là, ça va tellement le bouleverser qu'il va rester 2 jours au lit. Et il écrira à son père, c'est fini. Je ne resterai plus dans cette condition. Je ne veux pas être considéré comme le dernier des derniers. Je suis un compositeur, un bon compositeur. Il est conscient de sa valeur. Il n'est pas conscient de son génie, mais il est conscient de sa valeur. Il ne veut pas être humilié.
Alors, il y en a un avec lequel il est en concurrence, c'est Salieri, que l'on a même accusé d'ailleurs d'avoir empoisonné Mozart. Alors, Ève Ruggieri, qu'en est-il, puisque vous remettez les points sur les i dans ce dictionnaire amoureux de Mozart?
C'est totalement faux. Que Salieri ait été un peu agacé devant les facéties de Mozart, écrivant à toute vitesse des œuvres qui étaient dans l'ensemble plutôt meilleur que les siennes, ça a dû l'agacer. Salieri est extrêmement bien considéré. C'était un homme qui appartenait un peu au clan italien, qui était très bien vu à la cour, qui était raisonnable, lui, qui gambadait pas partout. Et donc, en même temps, c'est quelqu'un qui, vers la fin de la vie de Mozart, passera le chercher en voiture, Mozart va le chercher, ils déjeunent ensemble, il va voir 2 fois la flûte enchantée, il trouve que c'est magnifique. Enfin, ils étaient amis, ils n'étaient pas cette histoire d'empoisonnement et totalement, c'est du roman.
Ève, du roman, en tout cas, ce dictionnaire amoureux de Mozart se lit comme un roman. On marque une dernière petite pause musicale.
Bien
et
sûr.
Puis on retrouve nos auditrices et auditeurs toujours sur Radion, c'est Wagon Livre. Et nous sommes ensemble jusqu'à 22h avec notre musicienne, femme de radio et de télévision et écrivain, Ève Ruggieri.
Quelques lueurs d'aéroport, l'étrange fille aux cheveux d'or, dans ma mémoire traîne encore. C'est l'hiver à San Francisco, mais il ne tombe jamais d'eau aux confins du Colorado. Et le Golden Gate s'endort sur Alcatraz traîne encore des sanglots couleur de prison. Monsieur Caryl Chessman est mort, mais le doute subsiste encore. Avait-il raison ou bien tort? So far away from LA, so far ago from Frisco, I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow. Le Queen Mary est un hôtel au large de Beverly Hills, et les collines se souviennent des fastes de la dynastie de Garbo jusqu'à Bogie, faisait résonner ses folies. So far away from LA, so far ago from Frisco, I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow. S'en souvient ici, c'est l'hiver à San Francisco, je ne trouverai le repos qu'aux confins du Colorado. So far away from LA, so far ago from Frisco, I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Ce dictionnaire amoureux de Mozart, Ève Ruggieri, évidemment, il faut le picorer, ça ne se lit pas forcément de A à Z.
Oui, bien sûr que non, il y a 845 pages.
C'est un gros travail. J'aimerais tout de même que l'on parle de la, de la mort de Mozart. Nous l'avons dit, il est mort très jeune, 35 ans, en 1791. Qu'en est-il de la mort de Mozart et le lien notamment avec ce mystérieux visiteur masqué qui vient lui demander d'écrire ce célébrissime requiem, enfin mondialement connu.
Oui, ce qui est quand même stupéfiant parce que on est loin, il est loin d'avoir été écrit par Mozart. Le tout début, je crois qu'il y a 12 mesures qui sont entièrement finies. Et le reste est fait avec deux de ses élèves et principalement avec l'un d'entre eux. Mais, et pourtant, c'est l'œuvre la plus connue, la plus jouée de Mozart. Mais c'est vrai que les disciples, regardez, le Léonard de Vinci qu'on vient de vendre une fortune, il n'y a que les mains dont on est sûr qu'elles soient de Léonard de Vinci. Et pourtant, c'est un Léonard de Vinci. Parce que les élèves qui travaillaient sur l'étoile des maîtres, ça s'est fait pendant tous les siècles, de la Renaissance au XVIIIe siècle, prenaient l'habitude, le trait de crayon ou le coup de pinceau de leur maître, et terminaient, ils n'auraient pas pu faire toutes ces œuvres énormes qui ont été faites à la Renaissance et pendant les deux siècles qui vont suivre. Mais je pense que le Requiem, cette histoire du fantôme qui surgit, etc., c'est totalement faux. Parce que tout le monde savait à Vienne qu'il y avait un jeune comte qui avait perdu sa femme, qu'il adorait, et qui lui-même aimait beaucoup la musique. Et quand sa femme était encore en vie, il donnait beaucoup de concerts dans leur hôtel particulier. Et tout Vienne savait qu'il passait des commandes pour les signer de son nom à lui. Il voulait se faire passer pour compositeur. Et les musiciens viennois en riaient beaucoup entre eux. Mais comme c'était très bien payé, à la fin de l'œuvre, tout le monde disait « Merveilleux, vous êtes en progrès constant », etc. Et c'est un des valets de cet homme qui va aller secouer un petit peu Mozart, parce que Mozart ne se presse pas pour faire son requiem. Par contre, ce qui est vrai, c'est que Mozart a certainement été très impressionné, non pas par le visiteur, mais en tout cas par cette commande d'une messe des morts à un moment où il se sent mourant. Et je pense que c'est ça qui lui a fait peur. Mais ce n'est pas du tout le fait d'avoir vu surgir quelqu'un, ça a été qu'il le tirerait par son manteau. Tout ça, ce n'est pas lui qui l'a raconté. Ça a été raconté par des personnes de son entourage. Et ça a été un peu romancé. Bon, on fait toujours ça, vous savez. On raconte une histoire à quelqu'un, qui la raconte à quelqu'un d'autre, c'est déjà plus la même, qui va la raconter à son tour. Et c'est, bon, il y a beaucoup de romans là-dedans. Mais c'est une affaire très claire.
Alors, on sait que Mozart a été très proche de la franc-maçonnerie. Enfin, bien il a sûr. Lui-même été
très tôt,
franc-maçon dès 1784. Et il a même été inhumé, revêtu du manteau noir à capuche des francs-maçons. Et Ève Ruggieri, autre aspect intéressant, dans votre dictionnaire amoureux de Mozart, vous écrivez qu'on a retrouvé des fils d'acier autour du corps.
Non, alors c'est pas moi qui l'écris. Enfin, si je l'écris, c'est pour dire que c'est totalement faux. Parce que parmi toutes les légendes qui ont tourné autour de la disparition du corps de Mozart, pour une raison très simple, c'est qu'il n'a pas été du tout jeté à la fosse commune.
Mais communautaire.
Mais voilà, qui était une loi édictée par l'empereur. Seule la grande aristocratie avait droit à une tombe privée avec le nom. Les autres étaient anonymes et les Viennois étaient jetés par huit dans des fosses communautaires, ce qui n'est pas une fosse commune. C'était la loi du genre. Mais une fois qu'ils étaient jetés dans la fosse, on les arrosait
de
chaux vives. Et donc, on ne retrouvait pas l'histoire. On n'a jamais retrouvé le crâne de Mozart.
Alors oui, cette histoire de crâne.
C'est une légende aussi. Et moi, le Mozarteum en a une. À un moment, il a montré aux visiteurs. Et puis, bon, ils se sont dit que ça ne faisait pas très sérieux pour le Mozarteum de monter un crâne qui n'était pas celui de Mozart, supposé être celui de Mozart. Donc maintenant, ils ne le montrent plus. Mais ils m'ont dit très clairement, Madame Geffray, qui a dirigé le Mozarteum pendant des années, qui a un puits de science en général, mais surtout autour de Mozart, m'a dit que c'était en aucun cas le crâne de Mozart qu'on n'a jamais retrouvé. Mais il s'en est vendu beaucoup parce que ça faisait gagner de l'argent. Mais voilà, donc Mozart, on n'a jamais retrouvé son corps. Et quelqu'un prétendait l'avoir retrouvé préservé parce qu'on avait entouré son squelette d'une sorte de grillage de fer et que ça l'avait maintenu à travers le temps. C'est une grosse plaisanterie de mauvais goût.
En revanche, ce qui est sûr et certain, c'est que sur les euros d'origine autrichienne, c'est bien Mozart que l'on trouve.
Bien sûr. Ils ont essayé de se rattraper à Salzbourg. Vous savez que pendant des années, il n'y a pas eu de... Il n'y en a toujours pas, je crois d'ailleurs, de statues de Mozart, alors qu'il y en a qui sont parfaitement ridicules un peu partout en Autriche et en Allemagne. Mais je ne sais pas pourquoi cette ville qui aujourd'hui est devenue le lieu de rendez-vous de tous les amoureux de Mozart.
Et ce festival.
Et avec 3-4 festivals même, qui ont été créés par Herbert von Karajan. Qui est la ville que Mozart l'a plus détestée et qui n'a rien fait pour lui. Donc c'est quand même incroyable. De même qu'on dit toujours que Vienne est la capitale de la musique, si Vienne aujourd'hui a le meilleur, à mes oreilles, pour moi, le meilleur, pas seulement, mais pour moi, le meilleur orchestre au monde, qui est ce Philharmonique de Vienne, qui est une pure merveille. Je l'ai entendu à Salzbourg il n'y a pas longtemps. Il jouait Mozart... Et il y avait le concerto 23, je crois, qui était joué par cet excellent pianiste qu'on ne voit pas assez souvent en France, qui est Leif von Onnes. Et c'était, mais sublime, cet orchestre. On a l'impression qu'il n'y a qu'un seul violon, tellement les attaques sont ensemble, avec la même couleur. Enfin, c'est absolument merveilleux. Et je ne sais pas pourquoi je vous disais ça, mais il devait y avoir
parce
une bonne raison.
Parce que vous parliez du festival de Salzbourg, et voilà, la détestation de Mozart pour
voilà,
sa ville natale.
Et Vienne aussi. Vienne, comme on dit toujours, c'est la capitale. C'est pour ça que je vous parlais de la Philharmonie de Vienne. Vienne est une ville qui a toujours détesté ses compositeurs. Elle a laissé mourir Beethoven sans un sou. Elle a laissé jeter ce pauvre Mozart sans même... une cérémonie un peu à la hauteur de son génie après l'avoir renvoyé dans les faubourgs de Vienne. Elle a fait pareil pour Mahler. Enfin, on pourrait suivre tous les compositeurs qu'elle a laissé partir. Ils n'ont jamais aimé que les valses de Strauss.
Question facétieuse, Mozart, alors, est-il allemand ou autrichien ?
Alors, quand vous êtes à Berlin, il est allemand. Quand vous êtes à Vienne, il est autrichien. Et si vous vous trompez, ça se passe très mal.
Il y a une entrée, c'est le manuscrit du Requiem.
Oui.
Vous expliquez à Ruggeri que lors de l'hiver 2000, vous vous rendez à Vienne avec une équipe de, avec l'équipe technique de Musique au cœur de France 2,
oui,
pour
excellent,
découvrir un document exceptionnel.
Oui, qui était le Requiem, le manuscrit du Requiem. Et on s'était fait renvoyer balader par la France, qui n'avait jamais voulu qu'on puisse filmer alors qu'il appartient à la France. Il a été offert par Pauline Viardot, le manuscrit de Don Giovanni. Ils n'ont jamais voulu pour la télévision. Enfin bon, on n'a jamais pu le filmer. On appelle Vienne en disant, en étant sûr qu'ils allaient nous dire non après l'accueil de Paris. Et là, on nous dit, mais bien sûr, on prend une date, on arrive, tout est mu. On se retrouve dans une salle avec notre caméraman qui pourtant était habitué à filmer des moments pleins d'émotions, mais qui là n'avait qu'une idée. On avait attaché la caméra pour qu'elle surplombe le manuscrit. On se disait, mon Dieu, si jamais elle tombe, on meurt sur place. Et puis on avait arrivé un monsieur, on avait un petit peu l'impression d'être dans un roman policier, qui avait une gabardine serrée à la taille, un feutre mou sur la tête, et qui tenait une mallette qui était attachée à son poignet avec une menotte. Donc il nous a dit bonjour très courtoisement, il a défait sa menotte, il a posé la mallette sur la table, il a ouverte, il a sorti une couverture qui protégeait le manuscrit, et puis il a ouvert à la dernière page. Et là, on a tous été pris en voyant la note s'arrêter, un peu trembler parce que Mozart n'y arrivait plus. Il était en train de mourir, il ne pouvait plus écrire. Et il y avait cette sorte de d'émotion qui s'est saisie de nous. Et on avait tous les larmes aux yeux. Et notre caméraman, qui était plutôt solide, même lui, clignait des yeux en faisant signe d'avoir, faisant comme s'il avait une petite poussière dans l'œil. Mais en fait, on était tous complètement bouleversés. Alors, on a filmé ça. Et puis, le monsieur a refermé tout. s'est rattaché sa mallette et puis il est parti. Et nous aussi, il pleuvait, mais des cordes sur Vienne. Et on s'en apercevait même pas. On était tellement bouleversés qu'on avait oublié d'ouvrir nos parapluies. Et c'est au bout d'un moment qu'on s'est dit, mais on est complètement idiots. Et plus on a des parapluies, on ne les ouvre pas.
Ève Ruggieri, que pensez-vous du Mozart de Miloš Forman? C'était en 1984, 4 millions de spectateurs en France et 5 Oscars.
J'ai adoré. Tout est faux et j'ai adoré parce que ce qui est vrai, c'est Mozart. Il nous montre Mozart tel qu'il était. Oublions le rire qui a exaspéré un peu tout le monde, qui était un peu hennissant comme ça. Bon, mais c'était le jeu de l'acteur. Mais c'était Mozart, avec cette joie de vivre incroyable, où il courait au bal masqué avec son père. Léopold était fou. Léopold était fou de mode et fou de bal masqué. Ce n'est pas du tout celui qu'on nous a présenté. Dès qu'il écrit, c'est pour décrire la mode à Paris, la mode à Vienne, la mode à Londres. Il écrit « Ah, oh, sa fille, si tu portais ce chapeau que portent les londoniennes, tu ferais peur à tout le monde. » Il est passionné par tout ça. Et Mozart est comme ça. Il y a deux Mozart. Il y a celui qui écrit et qui sort de sa tête sans une rature ses partitions sublimes, qui matérialise ce qu'on appelle finalement l'âme de l'homme dont on ne sait pas trop bien où elle est et ce que c'est. Et puis il y a ce gamin insupportable parfois, ce garçon, ce jeune homme fou de femmes qui fait des acrobaties érotiques avec sa cousinette. Qui a déjà, elle, défrayé la chronique de Salzbourg en ayant une liaison avec l'abbé local. Bref, il fait plein de bêtises, mais il est ce que Forman a représenté dans le film.
Il faut dire aussi qu'il a côtoyé quelques défroqués. Da Ponte est un défroqué.
Bien sûr, ben Da Ponte. Libertin. Alors j'ai voulu aussi dans ce livre faire découvrir aux gens des personnages aussi stupéfiants. Ces personnages typiques du XVIIIe siècle,
Casanova,
où on traversait le monde dans des conditions épouvantables. Pas de route carrossée, des chevaux qu'il fallait changer dans des auberges de passage remplies de puces où il y avait rien à manger. Et ils ont parcouru des milliers de kilomètres comme ça pour aller porter la musique. Et Da Ponte, le Vénitien, qui se fait expulser de Venise. Et à peine il est prêtre qu'il est déjà expulsé pour deux histoires avec des dames qui ont scandalisé Venise. Il se réfugie où? Sur l'île où habite Casanova. Et il va finir épicier, éditeur à New York, où il va faire monter Don Giovanni à New York et va faire construire le premier opéra. Enfin, ce sont des vies incroyables.
Ève Ruggieri, merci beaucoup
de nous avoir
consacré du temps autour donc de ce dictionnaire amoureux de Mozart disponible en librairie aux éditions Plon. Et puis, vous citez ce mot d'Antonin Dvorak, Mozart et le soleil.
Oui, oui.
Qu'il continue à irradier comme ça, voilà, parce que je sais, et au début, vous le dites, vous êtes heureuse dans la vie, vous dites, grâce à Mozart.
Oui, c'est grâce à Mozart. Oui, je pense qu'on est très dépendant des premières années que l'on vit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois tous ces enfants errer à travers les différents pays, dormant sous des tentes hasardeuses, je me dis, mais comment vont-ils arriver à sortir de ça? Moi, j'ai eu la chance, dans un milieu qui était très modeste, d'être élevée à travers cette musique qui me faisait danser sur mon lit à 4 ans en sautant sur les dredons et Mozart, je riais aux éclats. Et le matin, souvent, je suis réveillée par Mozart que je mets sur mon téléphone et je mets des choses qui me font rire. Je mets la marche turque. Ça m'amuse, ça me fait rire. Et voilà, c'est une des lumières qui, effectivement, avec quelques grands penseurs, mais qui... donne vraiment sa place à l'homme sur cette planète que, par parenthèse, il est en train de massacrer. Ça, c'est une autre histoire.
Je recommande donc ce très beau travail d'une passionnée, d'une amoureuse.
Trois ans et demi. Mais je suis contente que ça marche très, très bien. Je pense que les gens s'amusent beaucoup en le lisant.
C'est très, très agréable. J'y ai appris beaucoup de choses sur ce que j'appelle la galaxie Mozart et tout ce qui tourne autour, Casanova, les philosophes,
c'est ça qui est intéressant.
La littérature
aussi. On ne vit pas dans un monde où il n'y a qu'une personne ou deux ou trois à la famille. Il y a plein d'autres personnages.
Et puis, il y a des pages très intéressantes sur la franc-maçonnerie, sur même, j'allais dire, les répercussions de la franc-maçonnerie dans les opéras, dans l'œuvre musicale de Mozart.
Bien sûr, plusieurs opéras, bien sûr.
Il faut creuser le sujet. Merci, Ève Ruggieri.
Merci à vous pour ce bon moment.
Et donc, je rappelle, Dictionnaire amoureux de Mozart aux éditions Plomb. Je salue toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis ce soir sur Radion et je leur donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau numéro de Wagon Livre. Je rappelle que cette émission sera disponible. Wagon Livre.
Très joli.
Merci Ève Ruggieri. L'émission sera disponible d'ici quelques heures à l'écoute sur le www.yannickpetit.fr. Merci de votre fidélité. Bonsoir Ève Ruggieri.
Bonsoir.
À la semaine prochaine. Au revoir.